Chapitre 16. Chloé, 15 juillet 2018. Je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de semblable. Il faut dire que le foot et moi, ça n'est pas la grande histoire d'amour. Je connais tout juste les règles, mais j'ai un souvenir très net de la soirée passée avec ma mère et mon père lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Mes parents étaient définitivement des adultes trop sérieux. Je ne suis pas certaine qu'ils aient vécu une vie heureuse. Je ne savais pas grand-chose de leur métier, à part qu'ils ne l'aimaient pas beaucoup, mais qu'ils s'y donnaient corps et âme, voyageant énormément, travaillant même pendant les vacances. Les rires à la maison étaient rares, et j'ai souvent été seule. Seule avec la nounou jusqu'à mes 14 ans, puis seule tout court. Alors cette finale de Coupe du Monde de 1998 apparaît, dans le brouillard de mes souvenirs d'enfance, comme l'une des rares soirées joyeuses, sans travail, en famille. Je sais bien que tout cela est sans doute une reconstruction de mon esprit et que mes parents m'offraient sûrement plus de moments que je ne le pense aujourd'hui. Mais je n'y peux rien. C'est la trace mnésique qui subsiste. Mon père avait pour l'occasion acheté des pizzas et des glaces. Le son de la télévision était au maximum. Ma mère m'avait maquillée. Nous avions ouvert les fenêtres et nous crions dès qu'un but était marqué. À la fin, mon père avait pris ma mère dans les bras et l'avait embrassée en riant. C'est la seule fois où je les ai vus s'embrasser. Puis nous étions sortis dans les rues de Paris, résonnant de klaxons et hurlements de joie. Mon père m'avait prise sur ses épaules, et nous avions marché en chantant jusqu'à la place de la République en liesse. Ce sont ces instants magiques de mon enfance qui reviennent, alors que le match de 2018 se déroule devant mes yeux. Lorsque Mbappé marque le quatrième but, lorsque certains supporters commencent à pleurer autour de moi, lorsque les chants se font plus forts, lorsque la foule saute si haut que j'en ai peur pour Olga, je crois entendre le rire de mon père. La déferlante de joie qui suit le coup de sifflet final est telle qu'Olga se jette sur moi, me dit qu'elle est heureuse que je sois à ses côtés, et malheureuse que Gina ne soit pas là, de ne pouvoir partager ça avec elle. Puis c'est Luther qui s'emballe. Il embrasse Olga sur la joue, puis il me serre dans ses bras en me soulevant du sol. Je n'aime pas ça du tout, mais je ne dis rien. Autour de nous, les gens deviennent hystériques. L'euphorie explose et mes tympans avec. Tout le monde hurle « On est les champions !» ou sa variante « Champion du monde !» dans un délire de bruit et d'accolade suante. Ma peur pour Olga est désormais légitime. J'ai l'impression qu'à chaque instant, n'importe qui pourrait écraser cette vieille brindille. Les gens sont si heureux que ça en devient flippant. Luther tire sûrement les mêmes conclusions que moi. Il me prend par la main, me demande de saisir celle d'Olga, et nous nous faufilons entre les groupes sautillants, nous extrayant du flot. C'est la première fois depuis le début du voyage que je vois la fatigue creuser le visage d'Olga. Elle a l'air épuisée, et je la comprends. On le serait à moins. Aussi ne suis-je pas surprise lorsqu'elle déclare nous abandonner pour aller se reposer. Elle ajoute qu'elle rejoindra ensuite ses amis retraités pour une nouvelle soirée pétanque dans ce même bar de Brooklyn. Bien sûr, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Mais vous serez bien mieux entre jeunes. Elle lance un grand clin d'œil avec sa dernière réplique, qui gêne autant Luther que moi. Ou pas. Car Luther prend mon bras et répond le plus naturellement du monde. Ne vous en faites pas, Olga. Je prendrai soin d'elle. Je m'apprête à répondre sèchement que je peux très bien prendre soin de moi toute seule, mais déjà Olga s'éloigne et Luther me propose une balade à l'ombre de Central Park tout proche. C'est vrai que le soleil tape fort aujourd'hui, alors même si le souvenir de mon effondrement de la veille dans ce parc me tend quelque peu, j'accepte. Luther sourit. Il me dit se sentir chez lui ici. Il connaît bien le lieu, alors il m'entraîne dans un dédale d'allées étroites, me fait découvrir des recoins paisibles regorgeant de cascades fraîches dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. Puis il me parle de cette histoire de plaques vissées sur les bancs et m'explique avoir accès, grâce à son métier, aux fichiers répertoriant l'ensemble des messages gravés. Ça vous dirait d'en découvrir des marrantes? Je doute que ce soit hilarant, mais pourquoi pas. Devant la première, je ne peux m'empêcher de sourire. Stephen R., not dead, he just loves plaques. Devant la deuxième, je me mets à pouffer. In memory of Roger Huckleby, who hated this park and everyone in it. Devant la troisième, je meurs de rire. On this bench, in 1897, nothing happened. L'humour absurde, associé à la démarche non moins absurde de dépenser une somme astronomique pour une telle plaque, m'achève. Luther s'éloigne pour nous acheter deux bouteilles d'eau, puis la visite touristique prend une tournure inattendue. Il se dirige vers un autre banc, mais il ne sourit plus. Il m'explique avoir quelque chose à me montrer et sort de sa précieuse banane deux feuilles format A4, pliées en 8. Sur ces deux documents s'étale une partie de l'histoire de ma famille. À travers ces quelques lignes d'une glaçante neutralité, j'imagine la petite Gina à 5 ans, face à l'incompréhensible, et l'émotion me gagne. Luther ne dit rien, me laisse absorber les informations. Attends que je percute, moi aussi. Je regarde Luther, incrédule. Ce que contiennent ces documents est terrible, mais limpide. Le problème, c'est ce qu'ils ne contiennent pas.